Voilà, bonjour. Bonjour à vous qui êtes chez vous. Bonjour à vous qui êtes ici en présentiel. Je me réjouis qu'on puisse bientôt nous être tous en présentiel. On est sur le bon chemin, je crois que. On était hier après-midi sur une terrasse à Fribourg avec Catherine et puis il y avait un monde dans la rue. Et puis je me dis, mais vraiment, j'avais l'impression qu'on sortait vraiment de quelque chose de. Voilà, que les gens avaient besoin de ressortir, de se rencontrer. Il faisait beau, il y avait comme une espèce de. Alors il y avait aussi du bruit et tout, c'était. Mais c'était. Voilà, je sais pas ce qu'il y avait. On arrivait gentiment au bout d'une longue période quand même de souffrance et que les gens avaient besoin de se revoir, de repartager des temps. Et comme nous ici, je pense que voilà, ça fait plaisir. On a eu la chance de pouvoir continuer de nous retrouver. Et c'est peut-être grâce aux Genevois qu'on a pu continuer de se retrouver. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous avez lu un peu l'actu, il n'y a pas longtemps, il y a une association d'avocats internationaux qui avait fait recours contre les mesures de confinement dans les églises ici à Genève. Et puis, la décision est tombée il n'y a pas longtemps, donc ils ont eu gain de cause. Donc, ils ont estimé que le droit, la liberté religieuse a été enfreinte avec ces mesures de confinement où à un moment donné, on ne pouvait plus se réunir. Et ça pourrait être aussi la raison, indirectement, ils savaient aussi, je pense, au niveau fédéral, qu'il y avait ce recours qui était pendant. Ça pourrait être une raison, éventuellement, qu'ils n'ont pas osé toucher, ils n'ont pas osé dire à un moment donné, on reste fermé. Les religions en général, mais nous aussi, les religions chrétiennes, ont besoin de se retrouver. Et on a pu continuer malgré toutes ces mesures qui ont été prises au niveau culturel, notamment. On a pu continuer de se retrouver. Et c'est un sujet aussi, je crois, de reconnaissance. Voilà, pour ce message d'aujourd'hui, j'ai à cœur d'aller un peu plus loin. La dernière fois, quand j'ai apporté le message, on a parlé des lamentations. On a vu que dans la Bible, il y avait beaucoup de passages de lamentations, finalement. Il y a même un livre entier que vous avez peut-être lu ou relu. C'est le livre des Lamentations. On estime qu'il y a environ un tiers des psaumes qui contiennent des lamentations, donc des gens qui expriment j'ai envie de dire, leur ras-le-bol, leur sentiment d'injustice, etc., à Dieu. Et que finalement, Dieu accueillait nos lamentations, qu'on pouvait vraiment lui exprimer, que ce n'était pas quelque chose qui le gênait, qui le dérangeait. Et que c'était important de lui exprimer ça. Et puis, que j'ai aussi ajouté, dans certaines circonstances, il est aussi besoin parfois d'exprimer ce qu'on a sur le cœur à des professionnels de la santé mentale qui peuvent aussi accueillir ça. Parfois, vous dites, voilà, je le dis à Dieu, mais j'ai besoin aussi de le dire à quelqu'un. Et on a des personnes, notamment les professionnels de la santé mentale, qui sont aussi là pour accueillir cela. Et finalement, cette lamentation, je pense que c'est des fois nous-mêmes qui nous limitons dans notre manière de lamenter. Et j'ai l'impression que c'est des fois nous qui devons nous autoriser à nous lamenter devant Dieu. On se met des fois un peu des. Voilà, pour diverses raisons, un peu des limites, et qu'on doit pouvoir s'autoriser cela, dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur de difficile, d'incompréhensible, de révoltant, voire d'injuste. Et j'ajouterai juste un point que, aussi un peu par rapport aux discussions qu'on a eues, que les raisons de se lamenter dépendent fortement du contexte dans lequel on se trouve. Dans un contexte, par exemple, de guerre ou de situation de persécution, c'est bien sûr très différent de celui dans lequel nous vivons ici en Suisse, où nous avons aussi des sujets de nous plaindre qui paraissent parfois beaucoup plus mineurs. Mais je voudrais dire ici que nous pouvons nous plaindre et que Dieu entend nos plaintes. Il sait aussi dans quelles circonstances. Je ne pense pas que Dieu va nous dire ta plainte n'a pas de valeur. Je pense que toutes les plaintes qu'on exprime à Dieu, après, il nous fait avancer, on verra aujourd'hui, mais que chaque plainte peut être entendue et reçue de la part de Dieu. Que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau communautaire, église, mais plus généralement sociétal, il y a des raisons aussi qu'on peut exprimer cela à Dieu. Alors aujourd'hui, allons un peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez, durant ces dernières semaines, eu l'occasion de pratiquer la plainte ou de vous plaindre à Dieu plus. On pourra peut-être tout à l'heure aussi dans les groupes un peu en échanger à ce sujet, si vous avez pu aussi expérimenter quelque chose à ce niveau-là. Allons un peu plus loin avec ce message d'aujourd'hui que j'ai intitulé « Attendre en silence, la deuxième étape sur la voie de la liberté ». J'aimerais trois parties. La première, j'aimerais revenir sur un texte qui se trouve dans le livre des Lamentations. Ça sera une lecture ou peut-être une relecture pour ceux qui ont lu le livre des Lamentations ces derniers temps ou qui l'ont lu pour le, en prélude au message qui avait été apporté il y a 3 semaines. Ça se trouve dans Lamentations 3, les versets 19 à 33. Lamentations 3, les versets 19 à 33. Je vais le lire dans la version. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Ou qui le recherche plutôt. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Ce chapitre 3, ce texte qu'on vient de lire, donc c'est écrit dans le livre des Lamentations, qui a été écrit, je rappelle, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui était destiné aux rescapés de la destruction de Jérusalem, qui n'avaient pas encore été amenés en exil à Babylone. En réfléchissant à ce contexte, je me suis dit que c'était un peu une situation, alors pas tout à fait la même chose quand même, mais un peu comparable à ce que vivent par exemple les chrétiens syriens, exilés de force, une partie est restée dans le pays et vit au milieu d'un pays dévasté par la guerre. Voilà un peu le contexte dans lequel se trouvait peut-être Jérémie ou un autre auteur au moment où il a écrit ce livre. Et si on prend le passage, ce passage-là que j'ai lu juste avant, nous avons ce verset, qui était très terrible, hein, cette fin du verset 18. « Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » C'est le fond, on a touché le fond ici, la personne. Quand on n'a plus d'espérance à un moment donné, je pense qu'il n'y a plus vraiment de raison de vivre. Si on n'a plus une espérance, que ce soit en Dieu ou une espérance en autre chose. Hein. Et je crois que l'espérance, c'est ce qui nous fait vivre. Et les passages suivants, dès le verset 34, ceux qui ont lu tout le passage, tout le livre des Lamentations, vous avez pu voir que on est de nouveau davantage dans le registre de la lamentation, des questions à Dieu, etc. Et je vois un peu ça comme des, j'imagine un peu des vagues, on a parlé des océans qui se démènent dans le champ un peu avant. Il y avait avant une grande vague qui submergeait celui qui écrivait, toute la douleur. Et là, il y avait une vague calme, comme le creux de la vague peut-être, qui était plus calme. Et ça revenait après, donc c'était comme s'il y avait... Voilà, c'est pas une fois pour toutes, ça peut des fois prendre du temps, en des moments où on adresse notre plainte et des moments où on se rappelle, on viendra tout à l'heure encore sur ce passage, où on se rappelle ce que Dieu a fait. C'est pas quelque chose de forcément linéaire. Alors, quelques interprétations de ce passage. Qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui, en lien aussi avec le silence qui est évoqué à deux reprises dans ce texte. Dès le verset 21, on sent vraiment un changement intérieur qui se produit. De souvenirs négatifs au verset 20, il dit « Moi, je m'en souviens donc de ces choses négatives, je m'en souviens bien et je sombre. » L'auteur se souvient de qui est l'Éternel. Il est bon, il est tendre, il est fidèle, ses bontés se renouvellent chaque matin, tout à coup une espérance qui arrive. Et je me suis demandé ce qui s'est passé entre deux versets comme ça. C'est assez dingue ce shift, comme disent les Anglais, ce retournement qu'il y a eu entre ces deux versets. Et je me suis même demandé s'il n'y a pas eu aussi un temps de silence qui a eu lieu. Et de quelle durée? Alors ça, on ne sait pas. On ne sait pas si à un moment donné, il s'est arrêté, il a juste fait silence pour tout à coup se rappeler ce que Dieu a fait. Ou peut-être c'était très rapide, ça, on ne nous le dit pas. Mais un silence qui aurait permis cet apaisement et fait remonter aussi les souvenirs de qui est l'Éternel. L'auteur réalise qu'il est bon d'attendre en silence la délivrance que Dieu opérera, comme il a dit aussi sur l'image. C'est écrit au verset 26. Donc, quel changement par rapport aux lamentations qui ont précédé. J'ai l'impression qu'il y a comme une forme de lâcher prise qui a eu lieu ici et comme une espérance qui revient. Lâcher prise sur les circonstances, que voilà, j'arrivais plus, j'essayais de me débattre seul, et là, à un moment donné, je lâche et je mets mon espérance en Dieu qui est bon et l'espérance en Dieu qui interviendra. L'auteur pense aussi que le joug pour le jeune homme est une bonne chose. Verset 27. Alors comment se comportent les jeunes lorsqu'ils sont confrontés à des nouvelles contraintes, qu'on pourrait imaginer des nouvelles contraintes lorsqu'ils entrent dans la vie? Alors on ne va pas en parler ici, ça pourrait être un message pour la jeune génération. Comment considèrent-ils peut-être ces contraintes, le joug qui arrive sur eux au moment donné quand ils entrent dans ou quand ils deviennent adultes? Nous avons ces versets 28 à 30, on comprend que le prophète, ici prophète Jérémie, ou un autre prophète qui l'a écrit, il arrive à accepter sa situation qu'il fait souffrir, à garder le silence quand Dieu le lui impose, verset 28, à présenter la joue à celui qui le frappe, verset 30. Et si l'auteur ici, par la suite, nous invite à rester patient et silencieux et à garder l'espérance dans l'épreuve, c'est qu'il sait que Dieu interviendra. Avec ce verset qui est verset 31, il ne rejettera pas pour toujours. Il sait aussi que si c'est difficile et que ça dure, les afflictions seront accompagnées de compassion selon son grand amour, verset 32. Et finalement, il en arrive à la conclusion que Dieu n'est pas ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler peut-être un sadique, qui prend plaisir à faire du mal à l'autre. Non, il a écrit ici qu'il ne prend pas plaisir à humilier. Ce n'est pas un Dieu qui prendrait plaisir à humilier et à affliger les humains, dans le verset 33. En lisant ce texte, je voyais un peu en filigrane aussi des passages de la vie de Jésus et aussi même des commandements que Jésus nous a enseignés. Je prendrai ici trois qui me sont venus à l'esprit, qui pour moi les plus évidents quand j'ai lu ce texte. Tout d'abord, il nous invite à porter un joug. C'était pour la jeunesse, mais en général, Jésus nous parlait aussi de porter un joug. Dans certaines traductions, il est dit d'accepter ses exigences, en précisant toutefois que ses exigences sont bonnes et son fardeau léger. On retrouve ici la bonté de Dieu. S'il nous met parfois un joug ou certaines exigences, c'est qu'elles sont bonnes et que c'est quelque chose de léger finalement. J'ai parfois l'impression que les jougs qu'on porte, je le parle pour moi aussi en premier, c'est des fois des jougs qu'on se met, des couches qu'on ajoute, et ce n'est pas forcément des jougs que Dieu nous demande de porter. On se met des fois de la pression, on peut dire comme ça, mais le joug que Dieu nous met, que j'interprète sa présence et ce qu'il nous demande de faire, c'est quelque chose de léger. Il nous a aussi dit que, on parle de silence, Jésus lui a gardé aussi le silence sur son chemin de croix. Il a aussi su être silencieux à un moment donné, ne plus parler. En particulier, ce passage, quand il est devant le grand prêtre qui est étonné qu'il ne réponde pas à un témoin qui voulait lui, un malveillant qui l'accusait, il est dit « Mais Jésus gardait le silence ». Dans Matthieu 26, verset 63. Et un troisième élément que je vois en filigrane de ce texte, c'est ce passage dans Matthieu 5, 39. « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Voilà où Jésus va jusqu'à dire non seulement, de certaine manière, accepter ça, mais tendre l'autre. Quelque chose qui paraît presque inhumain d'une certaine manière. Mais c'est quelque chose que Dieu peut aussi nous demander dans certaines circonstances, d'accepter finalement ça, même d'aller plus loin encore que simplement de tendre la joue, mais de tendre aussi l'autre. Venons-en maintenant à quelques considérations plus générales liées au silence dans notre parcours de foi. J'ai pris cette image, je crois que c'est une image qui a été faite près de Saint-Loup. Vous êtes déjà allé à Saint-Loup, ça vous dit quelque chose? Il y a un parcours de prière et puis j'ai trouvé cette image-là, que j'ai trouvé assez illustrant aussi des temps de silence qu'on peut avoir. Il y a un adage qui dit « la parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Ça, vous connaissez certainement. Ce dicton, il semble qu'il ait une origine dans le Talmud, qui donne finalement une valeur plus grande, plus importante au silence qu'à la parole. Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose d'absolu, de se taire et de ne pas parler. Dans certaines circonstances, je pense que nous sommes appelés à parler, à ne pas rester silencieux. Mais dans le contexte ici d'une relation avec Dieu et de nos relations humaines, on dit parfois aussi qu'on a deux oreilles, une bouche. On devrait deux fois plus écouter que parler. Ça peut aussi se retrouver. Pourquoi c'est si important de passer à cette deuxième étape vers ce chemin de liberté? Eh bien, le silence, il permet de réellement entendre. Et non seulement d'entendre, mais d'écouter. Il y a encore deux étapes. Hein. Des fois, on entend, mais on n'écoute pas. Et vous voyez un peu la subtilité. Hein. Des fois, on dit, oh, j'entends, mais j'écoute pas. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible quand on parle à une personne qui ne vous écoute pas. Ça vous est déjà arrivé? Vous lui parlez, mais elle n'écoute pas. Donc, apparemment, vos sourires, ça vous est déjà arrivé aussi. Ou bien parfois, il le fait par politesse. Hein. Ah ouais, oh ouais, mais. Aussi l'inverse, oui. Ou bien qu'il réfléchit déjà à autre chose, ou qu'il réfléchit déjà à la réplique. Il n'a pas encore fini de vous écouter, mais il est déjà prêt à vous donner quelque chose en retour. Donc ici, voilà, d'écouter le silence, finalement, silence nous permet de vraiment pouvoir écouter Dieu, mais aussi écouter l'autre. Et c'est un passage essentiel entre, si on a des temps où on se lamente, pour finalement s'arrêter, et puis à un moment donné dire, maintenant, voilà, j'ai déversé mon cœur devant toi, maintenant j'ai besoin de faire un petit silence, un petit break, pour pouvoir écouter. Ça peut être peut-être très court, ça peut être presque instantané, mais c'est indispensable. Et si on n'arrive pas à faire silence, et ce n'est pas forcément un silence, arrêter la radio, arrêter nos écrans, c'est souvent un silence intérieur dans nos pensées, mais aussi dans notre environnement. Il est aussi plus difficile d'entendre la voix de Dieu. Il nous a dit que c'est la douce voix de Dieu. Ce n'est pas forcément, ou rarement, je dirais, une voix forte que Dieu vient, qu'une voix presque audible, je te parle, l'Éternel des armées qui vient à toi, qui te parle. C'est souvent une voix intérieure qui est douce et qui a besoin, pour l'entendre, qu'on fasse taire les autres voix qui peuvent se situer dans notre intérieur. Mais de quel silence parle-t-on en fait? Alors d'un silence intérieur, ça je l'ai déjà dit, donc c'est au-delà d'un environnement qui est parfois bruyant, trouver ce silence intérieur. C'est faire taire tout ce qui tourne dans notre tête, qui peut parfois être tout aussi bruyant que l'environnement sonore qui est autour de nous. Et un deuxième point, ce qui fait peut-être la différence entre les méditations ou les techniques de méditation qu'on entend, qui sont très à la mode, de faire silence. Je pense que le silence, c'est un silence habité par la présence de Dieu. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas le néant, ce n'est pas je suis seul dans le silence. Non, je suis seul, accompagné de Dieu, dans la présence de Dieu, un silence habité. Et pour moi, c'est ce qui fait une grande différence par rapport aussi à des techniques qu'on apprend des fois de faire silence et de faire le vide. Sommes-nous tous égaux face devant le silence intérieur? Alors moi, je ne pense pas. Ça, c'est mon interprétation. Ça dépend certainement aussi de notre sensibilité au bruit extérieur, mais aussi au bruit, plus généralement, notre sensibilité à tous les stimuli que nous percevons, essentiellement par nos sens, nos cinq ou nos six sens, si on prend l'intuition comme un sens aussi. On n'est pas tous égaux. On parle aujourd'hui, vous avez déjà entendu certainement parler des personnes hypersensibles. Ça dit quelque chose à quelqu'un, la notion de personne hypersensible? On commence de creuser ça de plus en plus aujourd'hui, à tel point qu'on estime que c'est vraiment une caractéristique de personnes. Elles sont comme ça. C'est pas de la sensiblerie, c'est pas voilà quelque chose de entre guillemets négatif. C'est une particularité de certaines personnes. Et on estime aujourd'hui à peu près 20% de la population serait touchée par ça. Et qu'est-ce que sont ces personnes? Elles ont un seuil de tolérance aux stimuli assez bas, ou bien en d'autres termes, elles arrivent assez rapidement à un trop-plein. Un trop-plein d'émotions, assez vite, ou ça peut être un trop-plein, pas seulement des émotions, mais des soucis, ça peut être de réflexion, ça tourne dans la tête, etc. Et je pense que pour ces personnes, elles ont certainement, qui sont ainsi, un défi encore plus grand peut-être de faire silence intérieur par rapport aux personnes qui n'ont pas cette caractéristique, je dirais, d'hypersensibilité. Alors voilà, si vous voulez une fois savoir si vous êtes hypersensible, j'en parle, on a aussi fait un petit peu dans notre famille une démarche, on pense être assez hypersensible dans notre famille. C'est pour ça que ce thème me touche aussi en particulier. On est assez vite aussi, voilà, assez sensible finalement, et on a besoin aussi de faire un cheminement avec ça. Et ce que j'ai aussi appris dans ce chemin, c'est que finalement l'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il ne faut pas essayer de refuser ou de faire taire, mais c'est une caractéristique qui peut aussi, avec laquelle il faut aussi pouvoir vivre. Je vois Suzy qui rigole là, oui. J'aimerais parler continuer avec l'exemple de Jésus. Voilà, ici un exemple que j'ai trouvé de Jésus dans le désert, issu d'un film. Donc, il nous est rapporté que Jésus passait des nuits seul, des nuits La nuit, c'est généralement silencieux. En tout cas, je pense qu'à l'époque, c'était encore plus qu'aujourd'hui. Ils passaient des temps dans des endroits déserts, même comme ici, seuls. Je pense qu'il avait besoin de silence, mais pas seulement extérieur. Hein. Il était des fois avec les foules, j'ai envie de dire qu'il le harcelait, mais en tout cas qui était autour de lui, que ça faisait du bruit. Il a besoin de retourner dans ce silence pour être en communion avec son père. Et puis pour eux, selon une analyse qui a été faite par le philosophe Fabrice Midal, vous connaissez peut-être, lui-même a aussi, je ne sais pas sa croyance, mais il a fait une vidéo dans laquelle il disait, il estimait que Jésus était d'après lui aussi hypersensible. Il avait une certaine sensibilité, en tout cas dans ses caractéristiques, comment peut-être d'autant plus il allait la nuit dans le désert, pour vraiment, il avait besoin de calmer un peu ce qui tournait dans sa tête aussi. Il semble qu'il était aussi comme ça. Alors voilà, donc les personnes qui sont hypersensibles, Jésus vous comprend bien, mais j'ai envie de dire, mais Jésus comprend bien aussi tous les autres, hein. Il ne fait pas de différence de traitement. Dieu nous aime tous dans notre sensibilité, qu'elle soit forte ou faible, dans nos spécificités. Dans le dernier message, j'ai parlé quand on a vu que Jésus se lamentait, qui s'est plaint aussi auprès de son Père, qui ne voulait pas aller jusqu'à la croix. Donc, je peux aussi m'imaginer que dans ces instants de communion avec son Père, il devait aussi se lamenter. Dans toute son humanité, Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, je peux aussi m'imaginer qu'il devait exprimer aussi son ras-le-bol à Dieu, à son Père dans ces temps de silence avec lui, pour pouvoir de nouveau mieux percevoir et entendre la voix de son Père. On trouve une forme de silence qui est différente, c'est un peu un autre aspect, mais on l'a aussi chanté ici. C'est une forme de silence que Jésus a imposée lorsqu'il commandait au vent quand il a commandé au vent d'arrêter. C'est intéressant, il l'a c'est comme adressé à une personne, silence, tais-toi. Et je vois aussi à travers cette image-là, au-delà du calme même qui est revenu hein, sur le lac une fois que la tempête a cessé, Jésus est capable aussi de venir à notre secours lorsque nous n'arrivons pas à sortir de nos lamentations. Lorsque nous tournons en rond, on a l'impression qu'à un moment donné, on n'arrive juste pas à nous trouver ce silence qui peut devenir enfermant. Donc faisons appel à lui quand la tempête ou le bruit intérieur deviennent insupportables et il viendra, comme il a dit, imposer le silence aussi par son pouvoir. Quand il voit aussi que nous faisons appel à lui, quand nous réalisons que nous sommes incapables aussi de notre côté de retrouver ce silence. J'ai mis un titre pour la dernière slide, Take Home Message. Je me suis dit, ici à Versoix, c'est assez anglophone quand même. Hein. J'étais une fois à une conférence, c'était assez là, mot Take Home Message, c'était un peu le truc, j'ai dit, ok. Donc c'est quelques éléments à retenir que je vous invite je les ai aussi mis sur le slide, si vous pouvez reprendre certains éléments ou méditer, continuer là-dessus ou faire des idées aussi sur certains éléments du message. Voilà, c'est un peu le résumé, je dirais, du message. Donc voilà, dans un monde qui est toujours plus bruyant, rempli de bruit ou plus généralement de stimuli, le silence intérieur est un réel défi qu'il faut rechercher. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Aujourd'hui, encore moins, dans un monde très habité ou très bruyant à tous les niveaux. Et si je prends le langage de Paul, hein, je considère aussi cette recherche du silence intérieur, qu'elle fait aussi partie du bon combat de la foi. Paul a écrit à Timothée, je t'invite à combattre le bon combat de la foi. Alors c'est un thème en soi que je ne vais pas développer ici. Je pense que c'est un des éléments dans notre marche avec Dieu. C'est un combat, c'est quelque chose, un défi de pouvoir retrouver toujours ce silence intérieur pour être ouvert à ce que Dieu veut nous dire. Le chemin que nous avons commencé la dernière fois avec les lamentations, avec des prières de lamentation, il conduit au silence habité par la présence de Dieu. Et ce silence habité par la présence de Dieu, ce n'est pas forcément toujours un silence ou un silence d'une présence de Dieu qu'on ressent, pas forcément, mais c'est parfois aussi basé simplement sur des promesses de Dieu qui nous dit qu'il est là, présent avec nous. Et au-delà du bruit qui nous entoure, le silence est un état d'ouverture à la voix de Dieu. On parle parfois de prière silencieuse. On peut être en silence intérieur dans le bruit et vice-versa. On peut être dans un environnement très silencieux. Si je prends ici l'image, on peut être dans un environnement comme ça, par exemple, et ressentir un fort bruit intérieur. Donc, ce n'est pas forcément notre environnement qui dicte notre état intérieur. Aujourd'hui, on est à la Pentecôte. On nous l'a rappelé aussi ce matin. Par Thierry lors de l'introduction. Et dans la période qui a précédé cet événement extraordinaire, hein, je repensais à ça, cette effusion du Saint-Esprit qui est venue avec ses manifestations miraculeuses, tout à coup des gens qui commençaient à parler une langue qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Et il y avait des gens qui étaient venus à Jérusalem de tous les pays qui comprenaient. Donc il y avait tout à coup une communion, une communication qui s'est faite entre des gens qui ne comprenaient pas une langue de ce qu'ils disaient et des gens qui venaient là, qui entendaient des louanges à Dieu qui étaient dites par les disciples. Donc voilà, il y a cette manifestation, mais je pense qu'avant qu'il y ait ce temps, cette arrivée du Saint-Esprit, de cette effusion du Saint-Esprit, les disciples ont certainement passé par des moments de lamentation, mais aussi des périodes d'attente en silence la venue du Saint-Esprit. On dit qu'ils étaient réunis, qu'ils attendaient. Ils devaient quand même parfois avoir des moments silencieux, ils devaient se poser des questions aussi, d'attendre en silence. Mais ils avaient certains, je peux imaginer qu'ils avaient aussi des doutes. Certains disent, mais vraiment, est-ce que le Saint-Esprit va arriver? D'autres, remplis de foi, oui, il va arriver, Jésus nous l'a promis. Bon, il ne faut pas qu'on aille dans la rue, entre guillemets, qu'on continue notre mission avant que le Saint-Esprit soit venu. Ils ne savaient certainement pas non plus comment ça allait se passer. Donc quand on est dans une attente aussi devant l'inconnu, c'est peut-être aussi ça qu'ils vivaient. Au ciel, le silence pourra être absolu, mais je ne suis pas sûr, hein, peut-être. Parce qu'on dit que des fois le silence absolu n'existe pas sur terre, il y a toujours un petit peu du bruit. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il sera réellement habité par la présence extraordinaire de Dieu. Il y a un verset qui dit dans Apocalypse 8, verset 1, « Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Vous avez déjà essayé d'être en silence une demi-heure? C'est long, hein, une demi-heure. Déjà une minute, je voulais faire l'exercice, mais je ne crois pas. De rester une minute silencieux, c'est déjà long. On commence de... Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ça peut être très long. Là, une demi-heure. Je ne pense pas qu'ils se sont ennuyés durant cette une demi-heure dans le ciel. Quelle durée, donc une attente, quelle gloire aussi. Et je crois que dans cette attente d'être dans cette présence glorieuse et éternelle, avec des moments de silence, habités pleinement, recherchons ces prémices ici-bas. Il y a des prémices de ces temps de silence habités par la présence de Dieu. Et puis aussi avec l'aide de Dieu, essayons de dépasser nos stades de lamentation pour devenir silencieux et pour pouvoir entendre sa voix. C'est ce que nous verrons aussi la prochaine fois. J'apporterai le troisième message de cette mini-série sur écouter la voix de Dieu. Ça sera le 13 juin prochain. Donc voilà pour aujourd'hui. J'aimerais terminer encore par la prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu es celui qui nous entend, qui entend nos lamentations, comme on l'a vu. Aide-nous aussi à entrer dans le silence et pouvoir t'entendre, ce silence habité par toi et par ton Esprit Saint, comme aujourd'hui nous sommes à Pentecôte, où tu as revêtu les disciples de puissance, mais tu leur as aussi rappelé que tu étais présent en eux par le Saint-Esprit, et que nous puissions, dans ces temps de silence, découvrir que tu es là. Ta promesse que tu es toujours avec nous, nous puissions la découvrir et faire ce pas, cette recherche du silence devant toi. Ça puisse devenir quelque chose une bénédiction pour nos vies. Amen.